Face à Duhamel, Alain Duhamel s'installe et face à lui, aujourd'hui, le philosophe Raphaël Antheven. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Bonsoir Alain.
Bonsoir.
La réforme est donc, la réforme des retraites bien sûr, est désormais entre les mains des sénateurs. Emmanuel Macron d'ailleurs compte beaucoup sur Gérard Larcher, le président du Sénat républicain, et les sénateurs de droite pour faire passer cette réforme, quitte à faire des concessions supplémentaires. Alors je vous pose la question, est-ce que ça sera une réforme Macron ou une réforme Larcher ?
C'est, à mon avis, manifestement une réforme Macron et indubitablement une réforme Larcher. Alors je l'explique. Une réforme Macron, parce que politiquement, ça restera une réforme Macron. Ça sera la réforme emblématique, estampillée du deuxième quinquennat. Et quoi qu'il se passe, ça sera comme ça. D'ailleurs, il faudra que ses partisans en portent la croix au moment des élections. Mais c'est, en fait, sur le fond, c'est évidemment une réforme Larcher, ou plutôt Larcher-Retailleau. C'est-à-dire que c'est une réforme LR, c'est la réforme que le LR voulait faire d'ailleurs depuis des années et des années, proposée chaque année au moment de... Derrière ça, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça n'est pas la réforme Macron, parce que la réforme Macron, c'était celle de 2019-2020. Oui, ça, c'était une réforme ambitieuse, c'était une réforme nouvelle, c'était très compliquée, mais très intéressante, novatrice, c'était une idée neuve. Cette réforme-là, c'est une idée d'occasion. On la connaît depuis toujours. On refait cette réforme-là toutes les 5 ans, et ça continuera si ça passe comme ça. Bon, est-ce que ça veut dire que pour autant les Républicains et Emmanuel Macron maintenant sont mariés ? Pas du tout. Ils sont tous les deux sous pression. Emmanuel Macron parce qu'il fallait bien qu'il fasse une réforme sur les retraites, et parce qu'il pensait que c'était indispensable. Et les Républicains parce qu'il faut qu'ils redonnent, je dis bien qu'ils redonnent l'impression qu'ils sont un parti de gouvernement et pas simplement un parti opportuniste.
Oui, Raphaël. Politiquement, c'est bien joué, mais je vois dans cette alliance temporaire une mauvaise affaire pour la droite elle-même. J'ai plutôt le sentiment que la droite sera le mauvais marchand de cette alliance, que ça n'est qu'une étape supplémentaire de la désagrégation de la droite républicaine en France. Ils donnent le sentiment de refiler leur cahier des charges à la majorité. En réalité, j'ai plutôt l'impression qu'ils se font siphonner des voix et que, comme vous le dites d'ailleurs, ils devront rendre des comptes plus tard à leurs électeurs. Mais au-delà du jeu politique, l'enjeu de l'alliance avec les Républicains sur ce coup-là, c'était la validation démocratique et procédurale, en somme, d'une réforme. C'est-à-dire, c'était le maintien du pays légal contre le pays réel, comme dirait l'autre. C'était la possibilité, tout simplement, de gouverner avec une majorité relative. Voilà, c'est ça qui était en jeu, me semble-t-il.
Parce que réforme Larcher ou réforme Macron, quoi qu'il arrive, elle ne sera pas populaire, cette réforme.
Écoutez,
elle va continuer à être contestée.
Si vous me citez une réforme élevant l'âge de la retraite et populaire quelque part dans le monde, je serais très intéressé.
Et pour aller dans le sens de mon camarade, si vous me citez, à part le général de Gaulle, un seul président de la République plus populaire qu'impopulaire pendant l'exercice de son mandat, je serais content aussi.
Giscard l'a été à un moment donné.
Giscard a été populaire à un moment donné, mais ça n'a pas duré.
Non.
Mitterrand l'a été au début, mais ça n'a pas duré.
Mais derrière ça, il y a une vraie réflexion sur la question de savoir quelles sont les vertus pour gouverner et les vertus pour se faire élire. Les vertus pour se faire élire ne sont jamais les vertus pour gouverner. Pour vous faire élire, vous devez courber les chines, vous devez plaire à une majorité de gens. Pour gouverner, vous êtes contraint de rassembler une majorité, non pas de gens, mais de députés. Les choses sont différentes, et pour cette raison, vous mettez en œuvre des qualités qui ne sont pas celles que vous avez mises en œuvre pour vous faire élire. C'est pour ça qu'en France, on a d'excellents conquérants qui sont de mauvais gestionnaires.
On a de mauvais gestionnaires. On a plus souvent de mauvais gestionnaires que de remarquables conquérants, quand même.
Je pensais à Chirac, bon. Pour tout vous dire.
Bon, bien entendu, ce qui se décide aussi derrière tout ça, c'est le conflit des deux légitimités.
Oui.
C'est-à-dire le conflit de la légitimité du vote et le conflit de la légitimité de la protestation.
S'il y a vote. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu du vote à l'Assemblée.
Je parlais en général.
Oui, mais là, à l'Assemblée, dont on parle pour l'instant, l'Assemblée n'a pas pu voter, je rappelle quand même.
Enfin, n'a pas pu de son fait.
Oui.
S'y est pris de telle manière qu'elle n'a même pas voté l'article central. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, ce qui maintenant, je pense, va vraiment occuper, dominer, qui est très compliqué comme question et qui est forcément incertain comme résultat, c'est le conflit des deux légitimités. La légitimité parlementaire, mais qui est celle des citoyens. C'est les citoyens qui votent, qui élisent les parlementaires. Et la légitimité des protestataires dans et des syndicats.
Quelle légitimité donnez-vous à la seconde légitimité? Est la légitimité de la rue? En la circonstance,
alors, non, non, mais bien sûr. C'est
question. Elle n'est pas importante,
C'est une question piège.
Non, c'est une question sérieuse, une question permanente.
C'est une question permanente pose toujours en démocratie.
Et c'est la différence entre le choix, le jour du vote, c'est un choix, conscient ou pas, fondé ou non, et non seulement l'opposition, mais la frustration permanente d'une population qui, après une élection, ne voit pas sa situation s'améliorer de façon sensible. Bon, et donc, qui proteste, qui va dans la rue, quand il y a à la fois 75% des Français qui sont contre une réforme et qui a une manifestation vraiment importante comme le 19 janvier ou comme ce sera évidemment le cas la semaine prochaine, c'est une force.
Oui, mais sur la foi de sondage, selon vous,
il n'y a pas de sondage.
Sur la foi de statistiques objectives et de ce qu'on voit, est-ce que sur cette foi-là, il faudrait retirer le projet, par exemple? Est-ce que la légitimité va jusque-là?
Puisque vous me posez la question directe, je vous réponds direct.
Oui.
Je pense que non. Je pense que la.
La rue, ça compte pas pour vous.
Non, je ne dis pas du tout.
La manifestation du colère du peuple, ça ne compte pas.
Je ne dis pas du tout, ça ne compte pas. Ce que je dis, c'est que. Quand il y a une légitimité d'élection, bon, incontestable, et une légitimité de revendication évidente, la légitimité d'élection a, si j'ose dire, un grade au-dessus.
Enfin, l'histoire de France nous démontre que grandes conquêtes sociales ont été obtenues par la rue. Qui poussait le gouvernement à agir.
Par des élections.
En 68 notamment, je rappelle qu'il y a une forte augmentation des salaires parce qu'il y a eu mai 68.
Il y a aussi le précédent glorieux de 36, puisque les congés payés sont le fait des manifestations et n'étaient pas dans le programme du Front populaire. Mais il faut rappeler à ce moment-là que le Front populaire, où il n'y avait aucun ministre communiste d'ailleurs, le Front populaire était malgré tout déjà du côté des salariés qui étaient grévistes. C'était une grève joyeuse. Oui. Ça n'était pas une grève de même nature que celle auxquelles on a affaire ici. Quant à la légitimité de la rue, une chose est de dire que la rue est légitime et que les gens sont fondés à s'exprimer et à faire valoir leur point de vue. Tout autre est de considérer que ceci vaut mandat pour ceux qui ont été élus sur un autre programme. En démocratie, vous êtes élu sur un programme, que ce programme plaise ou déplaise, il est beaucoup plus inquiétant de revenir sur la promesse que vous avez faite que de la tenir, même si vous déplaisez à une majorité.
Sauf que vous savez très bien qu'Emmanuel Macron était élu.
C'est pas recevable, cet argument.
Face à un épouvantail.
Mais cet argument, il y a des tas de raisons pour élire un candidat. Il y a des tas de raisons qui entrent en ligne de compte. L'éloquence, le fait d'être face à Marine Le Pen. Il y a des tas de choses qui font qu'on vote pour
pas
quelqu'un.
Pas forcément pour la réforme des retraites, Raphaël Antoven.
Mais tous ces critères ne valent pas mandat pour celui qui est élu et qui est élu sur fond d'un
programme. Mais ça crée une ambiguïté et cette ambiguïté, elle s'exprime aussi
cette
dans la rue. J'entends beaucoup des gens de gauche dans la rue dire bien sûr, j'ai voté Emmanuel Macron, je ne voulais pas Marine Le Pen, mais je n'ai pas voté pour cette réforme des retraites.
Ça n'est pas la question. Ils ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Oui. Bon, mais ils l'ont fait en sachant Emmanuel Macron a
Annoncé que c'était moins pire que d'avoir Marine Le Pen.
Imaginons une seconde, s'il vous plaît, que Jean-Luc Mélenchon ait été au deuxième tour face à Marine Le Pen et soit élu avec les voix des macronistes. Mmh. Aurait-il renoncé à sa propre réforme des retraites pour complaire à l'électorat macroniste qui a voté pour lui en se bouchant le nez? Bien sûr que non. Et personne n'aurait vu un déni de démocratie là-dedans.
Les électeurs macronistes seraient dans la rue contre. C'est pas forcément les premiers à manifester.
Moi, je veux revenir à la question qu'on a évoquée, mais à laquelle on n'a pas vraiment répondu sur les deux légitimités.
Sur les deux légitimités.
Celle du vote, celle de la rue. Celle du vote, c'est un choix. C'est un choix conscient. C'est une décision qu'on prend. Celle de la rue, c'est en fait une opinion qui s'exprime.
Oui.
Donc, c'est une opinion. En démocratie, il faut écouter les opinions. Mais il ne faut pas forcément obéir aux opinions, parce que les opinions, c'est ce qui varie le plus.
Donc, il ne faut jamais retirer sa réforme.
Et alors, jamais.
Parce que dans l'histoire de France, on a retiré des réformes sous la pression de l'opinion. Oui, le CPE, 95...
Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, historiquement...
La réforme de Vaquet...
On a imposé plus de réformes qu'on en a retirées.
Et chaque fois qu'un gouvernement a retiré sa réforme sous la pression de la rue, il est tombé juste après. Il ne pouvait pas rester en place, et c'est surtout, c'était...
Sauf pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il a cédé, finalement Emmanuel Macron était réélu.
Vous avez raison, et Édouard Philippe est resté Premier ministre pendant un moment, tout à fait.
Mais que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu le Covid ? On n'en sait rien. Ah bah oui,
il y a une vraie question qui est une question démocratique. Est-ce que la démocratie et qui est une question de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen ? À quoi bon être citoyen si on ne fait que voter tous les 5 ans ? C'était l'argument de Sartre contre l'isoloir. Vous vous dépossédez de votre souveraineté en votant une fois et puis après basta, vous en lavez les mains. Bien sûr qu'il faut agir, mais ce qu'on demande ou ce qui nous déplaît ne vaut pas mandat nouveau pour celui qui a été élu pour une durée donnée.
Alors pourquoi ne pas faire un référendum comme le propose par exemple le Rassemblement National ?
Parce qu'on sait très bien que si on fait un référendum sur un sujet comme les retraites, la réponse est connue d'avance. Donc c'est un subterfuge.
Et puis parce qu'un référendum ne porte jamais sur la question qu'on pose, mais sur celui qui la pose.
Sur les retraites, je pense que ça serait quand même...
Mais le précédent, depuis que le référendum existe, enfin depuis le général de Gaulle, si vous voulez, on a bien compris que les questions posées n'étaient pas les vraies questions posées dans un référendum.
Le référendum sur l'Europe, les gens ont dit non.
C'est Mitterrand que les gens ont plébiscité. C'est Mitterrand l'Européen, à l'époque. C'était 92, Mitterrand était encore...
C'est Mitterrand qui a arraché
la chose.
La chose, oui.
Mais... C'est en revanche le raffarindum, on le connaît en 2005, hein, c'est ça qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que c'est très rare quand un référendum porte sur la question posée. Peut-être que
le raffarindum, je ne connaissais pas celle-là, elle est bien.
Elle est de Christophe Barbier.
C'est tout dire. Oui, mais pardon, là, on va avoir quand même une réforme qui sera faite pour la droite.
On a une réforme qui sera faite par la droite. C'est pas la même chose. C'est pas pour la droite. Alors, la droite espère y retrouver un statut.
Dans un contexte social disposé.
Oui, un statut. Bon, mais ça n'est pas fait pour la droite, parce que dans l'électorat de droite, pas simplement dans l'électorat résiduel des Républicains, mais dans l'électorat de droite classique, personne n'aime non plus que l'élévation de l'âge de la retraite. La question, de toute façon, de cette retraite, c'est pas de savoir si on peut l'aimer ou pas l'aimer, l'approuver ou pas l'approuver. La seule question, c'est de savoir si elle est nécessaire ou pas nécessaire, et ensuite, si, étant nécessaire, elle est efficace ou pas efficace. C'est ça, la question. Mais évidemment, personne n'est jamais tombé amoureux d'une réforme sur les retraites, sinon... sinon, en 1981, quand François Mitterrand a fait repasser la retraite de 65 ans à 60 ans, moyennant quoi, je me rappelle encore dans les années suivantes, Mitterrand me disant « Mais pourquoi est-ce que votre ami Rocard ne fait pas une réforme des retraites ?» Et je lui avais dit « Pour revenir sur ce que vous avez fait. »
Pour revenir sur ce que vous avez fait, oui.
Raphaël ?
Sur
la droite, sur le fait quand même que c'est une réforme qui sera peut-être plus une réforme pour la droite que pour l'électorat macroniste.
C'est une réforme qui va passer grâce à la droite. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, moi, le phénomène qui m'intéresse, c'est un non-événement, c'est le silence de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire...
Il était au Salon de l'agriculture tout à l'heure.
Mais qui ne dit mot consent ? Il sera rattrapé. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. Le soin que met cet homme, candidat, spontanément naturel, j'ai pas compris comment d'ailleurs, de la droite républicaine pour 2027, le soin qu'il met à ne pas prendre position, c'est-à-dire à ne rien dire qui puisse lui être reproché dans 3 ou 4 ans, ça me fascine.
C'est un manque de courage politique ?
C'est un manque de courage politique, c'est tellement évident. Un homme qui est appelé par les circonstances, par le hasard, par le jeu politique, à être investi de ce rôle-là, peut-être, et qui n'ose pas sur cette question prendre une position, alors que sa propre majorité est en train de se coucher devant son futur adversaire.
C'est d'accord avec ça, Alain ?
Non, parce que je trouve que c'est quand même... d'une certaine manière, mais je trouve
c'est
que
jamais
c'est,
glorieux, hein.
C'est assez original d'avoir un candidat muet.
Marine Le Pen fait ça depuis 15 ans.
Marine Le Pen tient un langage qui est un maquillage, mais qu'elle sait...
Non, elle a une façon de se taire aussi à des moments.
Faire évoluer, mais qu'elle sait faire évoluer.
Vous avez raison.
Alors que là, Laurent Wauquiez, il ne dit rien du tout.
Rien du tout.
Bon, c'est-à-dire que c'est un candidat qui s'auto-bayonne.
C'est ça.
Bon,
c'est ça en dit long quand même.
C'est assez étrange.
Non, mais ça en dit long sur le genre de candidature qui s'annonce.
On a quand même un contexte social très dur, on en parlait tout à l'heure, avec un mars rouge annoncé, c'est-à-dire des prix, notamment l'alimentation, qui vont continuer à progresser. Une France qui s'annonce bloquée à partir de la semaine prochaine. Sincèrement, quand même, la situation, elle est dangereuse, Alain Duhamel.
Oui, non, mais bien sûr.
Est-ce que le gouvernement en a conscience?
Non, bon, ils ne sont pas complètement idiots. Et c'est difficile quand il y a 1 million de personnes dans la rue de ne pas les voir, quand il y a des sondages de ne pas les entendre, et surtout de voir ce qui se passe dans les boutiques où les gens sont obligés de se restreindre en permanence.
On pose toujours la question de savoir s'ils ont vraiment pris en compte
l'élément
d'arrêter l'inflation.
Non, mais ils le savent. Évidemment, oui. ils le savent. La question, c'est de savoir s'ils donnent la bonne réponse à ce moment-là. Évidemment, par principe, c'est horriblement compliqué. C'est horriblement compliqué puisqu'on a quand même en ce moment 3 crises massives en même temps. On a l'Ukraine, d'abord. J'insiste sur le d'abord. On a la retraite ensuite et on a l'inflation enfin. Et la question entre l'inflation, c'est ce qui dépend de nous, c'est-à-dire l'inflation et les retraites, c'est de savoir si ce sont 2 crises qui se conjuguent ou 2 crises qui s'affrontent. Et moi, ce que je crois, c'est que ce sont 2 crises qui s'affrontent et pas 2 crises qui se conjuguent.
Et rares sont les événements sociaux de crise qui incluent une donnée supplémentaire, et on en a une. Il y a une différence entre cette grève et les précédentes, c'est le télétravail. On est passé par le confinement. Le confinement, plus exactement, est passé par là et a développé cet outil qui, au départ, était tout à fait minoritaire et qui a pris une ampleur considérable et qui est entré dans les habitudes des Français et qui a pour effet de désamorcer aussi beaucoup des effets, bien des effets délétères de la grève. Et ce qu'aucune concertation ne parvient à faire, il n'est pas impossible que la technique y parvienne, tout simplement le télétravail. Partie des gens qui travaillent naturellement, tout le monde ne peut pas le faire.
Le télétravail ayant un effet secondaire, qui est en fait un effet principal, qui est de créer une nouvelle opposition entre Français, entre diplômés et pas diplômés. C'est-à-dire que ce sont deux Frances qui sont créées par le télétravail et deux Frances antagonistes. Et il y en a une qui est dans la rue et pas l'autre.
Et celle qui est dans la rue subit aussi l'inflation parce qu'elle prend sa voiture, notamment.
Pas seulement, encore plus.
Encore plus. Merci messieurs. Avant de se quitter, je signale la sortie en poche du dernier livre de Raphaël Antoven.
Oh, c'est gentil ça.
Bah oui, c'est normal. Krasnaya. Et puis une nouvelle émission sur Paris Première.
Mais oui.
Ne nous fâchons pas.
Ne nous fâchons pas, c'est ce soir à 21h. Vous êtes élégant d'en parler sur cette chaîne.
On est comme ça.
C'est bien.
Très élégant. Bravo. Sur BFM TV. N'est-ce pas Alain?
Ouais, ça se voit.
Allez, merci.